De Dieu dans le livre du prophète Habacuc. Alors, c'est pas souvent que l'on se promène dans ce livre, mais avec les anciens, nous avons parlé de faire une petite série dans ce livre parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu premièrement, donc toute l'écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et puis, je crois que ce livre comporte vraiment des questions qui sont très actuelles, hein, qu'on se pose en tout cas de nos jours. Donc, le livre d'Habacuc fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y a 17 livres prophétiques. Donc, 5 qu'on appelle les grands prophètes, pas parce qu'ils sont plus grands et de plus importants personnages que les autres, mais c'est surtout peut-être par la taille, je crois, des écrits. Et puis, 12 petits prophètes. Et Habacuc fait partie de ces livres qu'on a classés dans les 12 petits prophètes. On ne sait rien sur ce prophète, à part ce qui est dit ici dans ce livre. Son nom signifie un peu, j'ai dû embrasser, hein. Et puis on peut dire que la rédaction du livre remonte à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, donc entre les années 600, entre 600 et 700 avant Jésus-Christ. Donc on est avant la conquête là de Jérusalem par les Babyloniens. On sait que c'est à cette époque parce que si vous regardez dans cet écrit, au verset 6 par exemple du chapitre 1, Dieu dit « Voici, je vais susciter les Chaldéens », donc ce sont les Babyloniens, hein, ici. Et donc Jérusalem a été une ville qui a été attaquée à plusieurs reprises par ces armées babyloniennes, par ce peuple babylonien. Et vous vous rappelez peut-être du livre de Daniel, hein, qui avait été déporté à Babylone. Et bien, ce que faisaient ces rois, c'est qu'ils ne déportaient pas forcément toute la population, mais ils choisissaient les personnes nobles, de bonnes familles, comme Daniel, ayant de l'instruction, et puis ils les déportaient. Hein. C'est pas une espèce de décapitation quelque part, parce qu'on prenait la tête, la substance du pays un peu, et puis on la déportait. C'est ainsi que Daniel a été déporté. Et il semble que Jérusalem a été attaqué à trois reprises par les Babyloniens. Donc l'armée babylonienne a déporté comme cela ainsi des personnes de Jérusalem. Mais si vous lisez le prophète Jérémie, hein, vous vous souvenez qu'on voit Jérusalem se rétracter à la demande de Jérémie qui les encourage à plutôt se laisser déporter, etc. Et donc ils résistent, ils sont insoumis au roi de Jérusalem, et Nebuchadnezzar revient quelques années plus tard, et puis il va prendre encore des captifs dans cette ville. Et donc c'est probablement tout cela que Habacuc est en train d'apprendre de la part de Dieu, quand Dieu dit au verset 6, « Je vais susciter des Chaldéens, un peuple furibond et impétueux qui va venir contre ce pays. » Alors, on assiste dans ce livre à une suite de, on pourrait dire, de questions-réponses, ou plutôt un entretien entre Dieu et son prophète, Habacuc. Habacuc prie, et puis Dieu répond. Habacuc prie, et puis Dieu répond. Mais ça ne se passe pas forcément aussi simplement que je le dis ici. Et donc, on voit dans ce livre qu'il y a comme thème sous-jacent, le problème de la souffrance, d'une part, qui peut exister à cause de l'homme et de son péché, et puis de la toute-puissance de Dieu qui semble ne pas intervenir pour écarter cette puissance. Un peu comme la question qu'on se pose souvent de nos jours, mais si Dieu est bon, si Dieu est grand, si Dieu est puissant, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas. Et je lisais dans un livre qui relatait plusieurs catastrophes qui se sont produites dans notre monde. Et il y a souvent, parfois en tout cas, à la fin de cataclysmes, de catastrophes, des gens qui trouvent dans ces catastrophes la preuve même que Dieu n'existe pas. Ou peut-être que s'il existe, il n'est pas suffisamment puissant pour intervenir et arrêter les choses. Ou peut-être que s'il existe et qu'il est puissant, il n'est pas bon parce qu'il ne le fait pas. Et on pourrait dire que ce livre d'Habacuc touche un peu à cette problématique-là. On voit un prophète qui est déconcerté, un prophète qui est perplexe face à ce qu'il voit se manifester comme la méchanceté au milieu même de son peuple, et puis d'autre part, ce qu'il sait vraiment de Dieu. Il est troublé par l'apparent silence de Dieu ou l'apparent immobilisme de Dieu. Et puis, quand Dieu décide enfin d'agir, il est encore plus troublé parce qu'il ne comprend pas comment Dieu agit. Et donc Habacuc est un homme qui souffre, qui aime vraiment son peuple, un homme qui prie, mais qui souffre vraiment du déclin spirituel et moral de son propre peuple de Juda, et qui souffre parce qu'il ne saisit pas toujours les voies incompréhensibles de Dieu. Alors le livre peut se partager, je crois, tout à l'heure, en une succession de prières et de réponses de Dieu. Nous allons nous cantonner un peu au chapitre 1 aujourd'hui et voir un peu la prière d'Habacuc, la réponse que Dieu donne à Habacuc ici, et puis la perplexité même d'Habacuc après avoir reçu une réponse. Donc je vais lire ce chapitre en entier et puis j'espère que vous avez pu le faire, parce que je vous avais envoyé un petit mot concernant cela, mais si vous n'avez pas pu le faire, on va le refaire en tout cas là, maintenant, lire ensemble ce premier chapitre et cette prière et cette réponse de Dieu au prophète Habacuc. Habacuc chapitre 1, verset 1. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. La réponse de l'Éternel, maintenant. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble ses prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Habacuc, maintenant qu'il parle, il dit, « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'a point de maître, et les fais-tu monter avec l'hameçon, les attire dans son filet? Il les attire, dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Verset 1 du chapitre 2. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Voilà, jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc on voit ici, premièrement, on pourrait dire la prière persévérante d'Habacuc et l'apparente inaction de Dieu. Voilà, ça, le contraste qu'on pourrait voir ici. La prière vraiment persévérante d'Habacuc, qui expose à Dieu la situation spirituelle et morale du peuple. Regardez ce qu'il dit ici. Hein. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Il parle ici, regardez les mots qu'il utilise. L'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Il parle de l'oppression, de la violence qui existe, des querelles, de la discorde qui s'élève. Et il dit même que la loi n'a point de vie, c'est-à-dire que le peuple n'obéit plus à la loi de Dieu, à la loi de Moïse. Et donc, cela se traduit par le fait que le méchant triomphe du juste et que l'on ne rend pas, et que l'on rend plutôt, on ne rend pas de bons jugements, mais on rend des jugements iniques. Voilà la situation de son entourage, du peuple dans lequel il vit, de son pays. Et il crie à Dieu pour lui dire, comment est-ce que tu n'entends pas ces choses? Il crie, il dit, j'ai crié. Et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Et il commence sa prière par « Jusqu'à quand, ô Éternel ?» Et cela montre que ce n'est pas juste une prière qu'il est en train de faire, ou qu'il a faite à Dieu. Mais quand il dit « Jusqu'à quand ?», ça veut dire qu'il a prié depuis un certain temps déjà. Et donc il persévère, c'est un homme qui persévère dans la prière pour son peuple, et qui crie à Dieu pour qu'il puisse intervenir dans cette situation spirituelle et morale décadente dans laquelle le peuple vit. D'accord. Donc, il ne cesse, je crois, de demander à Dieu d'intervenir. C'est ce que l'on voit ici dans ces petits versets déjà. Premièrement, c'est que c'est un homme qui prie avec persévérance pour demander, réclamer l'intervention de Dieu. Mais c'est un homme qui a un problème quelque part, on pourrait dire, entre guillemets, avec Dieu. Hein. Habacuc présente à Dieu la situation décadente du peuple, avec persévérance, mais son réel souci, si on regarde bien sa prière, ce n'est pas les actions des hommes, mais c'est l'inaction de Dieu. Il dit, jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. Il dit, j'ai crié vers toi avec violence et tu ne secours pas. Il dit, pourquoi, dit-il, me fais-tu voir l'iniquité et tu contemples l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Autrement dit, pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ces choses? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Oh Dieu, pourquoi est-ce que tu restes inactif? Pourquoi est-ce que tu restes silencieux? Il dit, tu n'écoutes pas. Il ne reçoit aucune réponse de la part de Dieu. Il ne cite les actions, on pourrait dire, des hommes ici que pour mettre en évidence le fait que Dieu n'agit pas, que pour mettre en évidence l'inaction de Dieu ici. Tout ce qu'il exprime dans ces versets viennent soutenir vraiment son incompréhension face à l'inaction de Dieu. En tout cas, l'inaction apparente de Dieu. Et on pourrait dire que plus que le péché de ces hommes, c'est vraiment le fait que Dieu reste silencieux face à cela, qui le trouble. Et donc l'incompréhension du prophète Habacuc, c'est que le Dieu saint laisse prospérer le mal et l'iniquité. Que le Dieu tout-puissant n'intervienne pas pour faire cesser le mal et rétablir la justice, alors qu'il a le pouvoir de le faire. Un peu comme, je vous disais tout à l'heure, les questions que l'on se pose, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi n'intervient-il pas? Et donc, pour Habacuc, c'est comme si Dieu était indifférent. Et il dit, pourquoi? Plusieurs fois, vous avez vu ça, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et cela... il n'a pas été le seul, n'est-ce pas, Habacuc, à avoir ce sentiment. On pense à Job aussi, mais on peut penser au prophète Jérémie. Dans Jérémie 12, par exemple, qui était donc contemporain aussi d'Habacuc, il dit ceci, il dit « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? » Voilà comment s'exprime Jérémie. Il continue dans ce chapitre 12. Et dans Lamentations, il dit ceci, il dit « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Il dit « Je prie, mais le ciel est silencieux. Et j'ai beau prier et prier et prier, et il n'y a absolument rien. » Et certainement, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons peut-être comprendre ce que Habacuc vit ici. Peut-être avez-vous déjà prié, en tout cas, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui me disent « J'ai prié, je prie Dieu constamment pour cela, mais je ne reçois pas de réponse. » Et on a l'impression que la prière tombe dans le vide. Les choses continuent comme d'habitude. D'ailleurs, je crois que les moqueurs, si on lit l'épître de Pierre, il dit que les moqueurs viennent avec leurs moqueries et ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Parce que depuis longtemps, les choses sont toujours les mêmes qu'auparavant. Je me rappelle avoir parlé avec quelqu'un en disant une fois « Mais Jésus-Christ va revenir. » Il me dit, ça fait 2000 ans qu'on dit ça, mon ami. C'est une manière de me dire. Et c'est pareil, parfois on peut avoir cette impression, ça fait longtemps que je demande, que je prie pour quelque chose, mais cela ne vient pas. Eh bien, Habacuc a vécu cette situation. Il prie, c'est un homme qui prie avec persévérance et qui a l'impression que Dieu n'agit pas ici. Mais dans ce livre, nous voyons que cette inaction de Dieu n'est que apparente et que ce sentiment d'Habacuc n'est pas un sentiment juste, que Dieu est en train d'agir. Nous allons lire la suite, regardez à partir du verset 5, ici il dit « Jeté parmi les nations » et donc nous allons considérer deuxièmement la réponse de Dieu ici, la réponse, je vais dire, incompréhensible de Dieu, après la prière persévérante d'Habacuc face à l'inaction de Dieu, on peut voir ici la réponse incompréhensible de Dieu. Il dit « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais en vos jours faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Premièrement, Dieu montre qu'il va intervenir certainement et qu'il n'est pas en fait sourd à la prière d'Habacuc. Il n'est pas aveugle face aux choses qui se passent dans le monde. Il n'est pas aveugle face à ce qui se passe dans son propre peuple de Juda. Il voit ces choses, il connaît, il le sait. Il va intervenir ici. Et ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas en jugement immédiatement qu'il n'interviendra pas. Ce n'est pas parce qu'il met du temps à intervenir qu'il n'interviendra pas. Le propre de l'homme, souvent, c'est de croire que s'il n'y a pas tout de suite une sentence, il n'y aura jamais de sentence. Et l'Ecclésiaste l'exprime comme ça, il dit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Parce que Dieu ne punit pas tout de suite, on se dit, voilà, hein, on peut encore faire ce qui est mal. Okay. Et je vous disais tout à l'heure, dans la première épître de Pierre, là, je l'ai noté le verset cette fois-ci, où l'apôtre Pierre, fait mention des moqueurs. Il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'y a pas de changement. Les choses continuent comme elles ont toujours été. Et comme certains disent parfois, il n'y aura pas de jugement non plus. Et tout cela pour pouvoir faire le mal de plus en plus. Mais Dieu promet qu'il interviendra. Qu'il interviendra. Et il dit, je vais faire. En vos jours, une œuvre. Et donc Dieu rassure Habacuc qu'il n'est pas indifférent au péché ou à l'injustice qui existe parmi les nations, ni au milieu de son peuple, et qu'il interviendra en un temps et d'une manière et avec une méthode qui lui sont propres. Il interviendra certainement. Donc il promet la certitude de son intervention, mais il promet aussi un jugement aussi, j'allais dire, étonnant qu'épouvantable et même incroyable. Ici. Il dit, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire une chose incroyable. Il dit, même si on vous la racontait, vous ne la croiriez pas. C'est à peine croyable. Donc non seulement Dieu n'est pas indifférent, mais il n'est pas non plus à court de moyens pour pouvoir agir. Et il dit, je vais agir d'une manière qui va vous surprendre, vous étonner et même vous épouvanter. Et l'apôtre Paul utilise cette même expression, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il prêche à Antioche, dans Acte 13, hein, une fois que le Saint-Esprit les avait mis à part, puis ils sont partis, il arrive à Antioche, il prêche, il rentre de la synagogue et il prêche. Et il parle en acte 13, vous pouvez regarder cela, acte chapitre 13, ici, acte 13, et au verset 40, je n'ai pas noté, donc 41 je crois, acte 13 et au verset 41. Mais un tout petit peu avant, il prêche, verset 38, et il dit, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon, par Jésus-Christ, donc, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit en est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Vous voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Ici, il utilise la même chose ici. Il dit attention, il dit quand il s'agit d'exposer la parole de Dieu et qui dit qu'il faut se repentir, il dit attention à ne pas la rejeter, sinon vous allez tomber sous ce coup du jugement extraordinaire que Dieu va faire. Il dit, prenez garde, il leur dit, prenez garde. Donc c'est un avertissement qu'il leur donne à cela. Et donc Paul montre ici que Dieu n'est pas indifférent au sort que l'on fait non plus à l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'on le rejette. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu qui étonnera? D'abord, il dit qu'il va susciter un peuple, les Chaldéens, un peuple qui, de l'aveu de Dieu lui-même, est un peuple furibond, un peuple voleur, un peuple qui n'obéit qu'à la loi de son propre cœur corrompu. Ils sont rapides, ils ont des instruments, un matériel extrêmement rapide, des chevaux, ils ont des cavaliers, ils ont du personnel ici. Ils ont des intentions tout à fait néfastes. Ils ne prêtent aucune attention à aucun traité de paix, à aucune loi dans aucun pays extérieur, à aucun président. Et ils n'ont confiance qu'en sa propre force. Il met toute sa confiance dans sa force. Sa force, dit-il, voilà son Dieu, ici. Et donc, c'est l'accomplissement ici de la malédiction, en tout cas d'une des malédictions que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait prononcée, vous rappelez-vous, dans le Deutéronome chapitre 28, où Moïse dit, si vous obéissez à la loi de l'Éternel, voici les bénédictions que vous aurez. Mais si vous désobéissez à la loi de l'Éternel, voici les malédictions qui tomberont sur vous, ici. Et je vous lis cela dans Deutéronome chapitre 28, versets 49 à 50, il dit « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. » C'est exactement ce qui arrive à ce moment-là lorsque Habacuc parle au peuple. Donc c'est à cause de leur péché, du fait de s'être détourné de Dieu, que ce jugement va tomber sur eux. Mais autant que Dieu a prévu pour que cela arrive. Voilà donc la réponse de Dieu à la prière d'Habacuc. Habacuc prie, il dit, je prie, j'ai crié, jusqu'à quand? Jusqu'à quand restera sourd? Jusqu'à quand attendras-tu pour intervenir? Et Dieu dit, je vais intervenir. Je vais intervenir. Après qu'Habacuc ait prié pendant longtemps. Et Habacuc s'est dit, ouf, enfin. Et puis Dieu dit, voilà ce que je vais faire. Mais ça va être surprenant, ça va être épouvantable, ça va être incroyable. Et Habacuc, on pourrait dire que les bras lui en tombent, quoi, quand il entend ce que Dieu dit. Il est perplexe. Il ne comprend pas. Et quand on lit le verset 12 au verset 17, on voit qu'il est stupéfié par la réponse de Dieu. Il souhaitait une réponse de Dieu, mais peut-être pas de cette manière-là. Peut-être s'attendait-il à ce que Dieu suscite quelqu'un qui va venir et puis qui va secourir ce peuple, ou bien qui va leur parler, ou peut-être que du cœur de qu'il suscite une repentance nationale dans le cœur de ce peuple, qu'il change. Mais Dieu dit qu'il va venir et qu'il va détruire ici, de manière spectaculaire. Et Habacuc ne comprend pas cela. Il ne comprend pas cela parce que, surtout au verset, si vous regardez au verset 13, quoi, il dit ceci, il dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» En fait, sa question ici, c'est « Je ne comprends pas, Seigneur, que tu utilises un peuple qui est plus mauvais que le peuple de Juda pour châtier Juda. » Il y a quelque chose qui ne saisit pas là. Mais avant de le dire, regardez ce qu'il fait, c'est ça que je voudrais souligner. Il commence par énumérer les certitudes qu'il connaît sur Dieu. Il dit au verset 12, « N'es-tu pas de toute éternité, mon Dieu, mon Saint ?» Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Il commence par exprimer, donc dans ce troisième point que je souligne ici, que j'intitule la perplexité d'Habacuc face à la méthode de Dieu ici. La perplexité d'Habacuc face à la méthode de Dieu. Il énumère d'abord ce qu'il sait de Dieu. Il parle de son éternité. il parle du fait qu'il est le Dieu éternel, celui qui existe par lui-même. Il parle du fait qu'il existe de toute éternité, mais en l'appelant éternel, Yahweh, il parle du Dieu qui est tout suffisant, qui existe par lui-même, hein, qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Il parle de sa sainteté. Il parle de sa fidélité quand il dit « nous ne mourrons pas ». Il pense, comme certains commentateurs le disent ici, il pense à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Dieu est celui qui ne révoque pas son alliance, il n'oublie pas son alliance. Et il dit « nous ne mourrons pas ». Il prend tout ce qu'il connaît de Dieu et il s'appuie là-dessus. Et il s'appuie là-dessus. Avant même d'exposer son incompréhension à Dieu. Et c'est dans ce cadre-là qu'il progresse ici. Il reconnaît la puissance de Dieu à susciter les instruments de sa justice. Il comprend que Dieu suscite un instrument pour exercer son châtiment. Verset 12, il dit « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon Dieu, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Peut-être qu'il connaît le prophète Ésaïe, je suppose, qui est un peu plus antérieur, hein, et qui avait dit la même chose concernant Dieu. Écoutez en Ésaïe, chapitre 10, je crois, versets 5 et 6, je lis, il dit « Malheur à l'Assyrien, j'ai Dieu qui parle, il dit « Verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage, fasse du butin, pour qu'il foule aux pieds comme la boue des rues. Il est conscient que Dieu a la puissance de susciter de n'importe quel peuple, de n'importe quoi ce qu'il veut, un instrument pour exercer sa justice. Il suscite les Chaldéens pour exercer sa justice. Mais que cela se fasse, comme Ésaïe le dit ici, sur une autre nation impie, c'est une chose, mais qu'il l'utilise pour pouvoir châtier son propre peuple, qui est plus juste que ces Chaldéens, Habakkuk ne comprend pas cela. Il s'attendait, on l'a dit tout à l'heure, à ce que l'intervention de Dieu soit d'un tout autre type. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que Dieu puisse se servir d'une telle méthode contre son peuple, qu'il utilise l'impie pour châtier celui qui est plus juste que lui. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tirerais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Voilà ce qu'il dit à Dieu ici. Et c'est quelque chose qui est incompréhensible. Donc voyez, on a ici un homme qui prie avec persévérance, un homme qui ne comprend pas que Dieu n'intervienne pas, que Dieu reste inactif. Et puis, une fois que Dieu expose ce qu'il va faire, il n'est pas plus satisfait qu'il ne l'a été auparavant, parce qu'il ne comprend toujours pas. Il tombe, il quitte une difficulté pour tomber dans une difficulté encore plus grande. Il avait questionné la puissance de Dieu à intervenir pour rétablir l'ordre, et maintenant, il a un problème avec la sainteté de Dieu, sa pureté, ses yeux qui sont purs, qui ne peuvent voir le mal. Comment peut-il supporter qu'une nation impie touche à son propre peuple? Comment peut-il même l'utiliser comme instrument de justice contre son propre peuple? Et Dieu ne répond pas à la question, en tout cas pas là, d'Habakkuk, ici. Et que fait Habakkuk? Eh bien, après avoir énuméré les certitudes concernant Dieu, après avoir dit qu'il reconnaît que Dieu peut utiliser, peut susciter des instruments de manière souveraine pour sa justice, après avoir exprimé son incompréhension, eh bien, au chapitre 2, verset 1, il s'abandonne à Dieu. Il s'abandonne à Dieu. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais qu'il attendait pour voir ce que l'Éternel me dirait et que ce que je répliquerai à ma plainte. » Donc Dieu répond à la prière d'Habakkuk, mais sa réponse même soulève d'autres questions encore plus grandes dans le cœur du prophète. Et comme on l'a dit, le problème de la sainteté de Dieu et de l'utilisation de ceux qui font le mal est un problème épineux pour lui. Alors que fait Habacuc ? Que fait Habacuc ? Il ne tire pas de conclusion en disant finalement Dieu ne nous aime pas. Je crois que Dieu a oublié son alliance. Il ne tire aucune conclusion de la sorte. Il se tait et il s'abandonne à Dieu. Et il attend encore ce que Dieu pourra lui révéler plus tard. Mais il se repose, on pourrait dire, sur ce qu'il sait de Dieu et qu'il a énuméré auparavant. Il attend le moment où il recevra plus de choses de la part de Dieu, plus de révélations de la part de Dieu. Et il continue son ministère. Il n'arrête pas. Il ne dit pas maintenant c'est fini, puisque c'est comme ça, je claque tout, je laisse tout, ça ne vaut plus la peine. C'est un sentinelle, d'accord ? Et il dit quoi ? Il dit, j'étais à mon poste. Il est à son poste. Voilà. Il n'a pas compris tout cela, mais il continue son ministère. Et il est fidèle dans le service qu'il doit rendre à Dieu. Il est à son poste. Il se tient sur la tour. C'est une sentinelle. Et il veille, et puis il attend. Il attend que Dieu lui révèle plus de lumière. Et c'est ainsi que réagit Habacuc face à la déclaration que Dieu vient de faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut, pour nous, ce matin, tirer de cela ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela ? Premièrement, que Dieu contrôle l'histoire de notre monde. Il n'est pas hors de l'histoire du monde ici. On le voit avec Habacuc, hein. Dieu dit, je vais intervenir. On voit qu'il a un plan, qu'il a un dessein qui est déjà arrêté, qu'il a une date, puisque les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et donc, il ne faut pas sombrer dans la négation de Dieu. Dieu est au contrôle de l'histoire de notre monde. Il agit dans tous les détails de l'histoire de notre monde. Nous avons dit tout à l'heure qui est Dieu le Père. Nous avons dit que Dieu le Père est le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, qu'il maintient en existence et gouverne de façon à faire toutes choses répondre à sa volonté. Tout ce qui se passe sur la terre répond à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Tout ce qui se passe sur la terre répond à la volonté de Dieu. Depuis les actions des hommes les plus impies, jusqu'aux actions les plus louables des enfants de Dieu, en passant par la maladie des enfants de Dieu et leur mort, et tout cela, par les épidémies, tout est sous le contrôle de Dieu. Nous n'aimons pas dans le monde entendre cela, mais toute chose est sous le contrôle de Dieu. L'histoire du monde, c'est l'histoire de Dieu et de l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons considérer les choses. Deuxièmement, je voulais souligner que on voit dans ce texte aussi que la prière ne consiste pas à prescrire à Dieu ce qu'il doit faire, mais à réclamer que sa volonté soit faite. La prière ne consiste pas à dicter à Dieu ce qu'il doit faire, ou de prescrire ce qu'il doit faire. Et je ne veux pas dire que Habacuc l'a fait dans ce sens-là, mais dans sa prière, on sent qu'il veut que Dieu intervienne. Il veut que Dieu vienne et qu'il punisse, au moins qu'il rétablisse la justice, sa justice. Il est soucieux de la gloire de Dieu. Il est soucieux de la sainteté de Dieu. Mais Dieu n'est pas télécommandable. Ce n'est pas parce qu'on prie, même avec persévérance, et il faut prier avec persévérance, parce que l'Écriture nous enseigne, nous exhorte, nous commande à prier avec persévérance. Mais ce n'est pas parce qu'on prie avec persévérance que Dieu fera disparaître telle chose ou telle chose de notre propre vie ou de nos circonstances. Ce que nous devons chercher dans la prière, c'est que sa volonté soit faite. Et c'était l'attitude de Jésus, rappelez-vous, quand il a prié dans le jardin de Gethsémané, qu'il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il a dit toutefois que ta volonté soit faite. » Et la coupe n'a pas été éloignée. Il a dû la boire jusqu'à la lie, comme l'Écriture nous le montre. Troisième vérité que je voudrais souligner, c'est que ce qui apportera le plus, le plus grand, la plus grande paix aux croyants, aux saints des incompréhensions qu'il peut trouver dans notre monde, ce n'est pas la réponse à nos pourquoi, mais c'est la méditation et la confiance dans les vérités fondamentales qui concernent Dieu. Je sais pas, je le redis, c'est un petit peu long, mais ce qui apportera la paix la plus grande au sein des incompréhensions que nous pouvons vivre, ce n'est pas la réponse à nos pourquoi. Si je sais pourquoi ça se passe, pourquoi je serai satisfait. C'est pas cela, mais c'est la confiance dans la vérité fondamentale qui concerne Dieu. Parfois, quand on est dans la maladie ou dans une situation difficile, on dit pourquoi ? Mais je comprends pas pourquoi Dieu me laisse dans cette situation-là. Je comprends pas pourquoi il n'intervient pas. Et même si tu comprenais pourquoi, tu n'aurais pas de paix. Même si tu disais pourquoi, on n'aurait pas de paix. On n'est pas capable de comprendre le pourquoi du comment de l'action de Dieu. Alors même si ça n'empêche pas de demander pourquoi, Habacuc demande pourquoi à Dieu. Il dit pourquoi ? Pourquoi ? Mais Dieu ne donne pas d'explication à Habacuc. Il lui dit voilà ce que je vais faire. Et Habacuc est encore plus perplexe avec la méthode que Dieu va employer qu'il ne l'était auparavant. Mais ce qui lui assure la paix, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur les vérités qu'il connaît de Dieu. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu éternel. C'est pour cela que c'est important, chers frères et sœurs, que nous apprenions des vérités sur les attributs de Dieu. On s'efforce de le faire avec vérité fondamentale. Parce que lorsque les eaux tumultueuses de la vie seront là et que nous serons tellement pris que nous risquons de questionner la bonté ou l'amour de Dieu, ce qui nous apportera l'assurance et la paix, ce n'est pas de savoir pourquoi telle ou telle chose nous arrive, mais c'est de pouvoir poser nos pieds sur le roc, la vérité de Dieu. Il y a un auteur qui le dit très bien, c'est Martin Lloyd-Jones, il le dit comme ça, il dit « La meilleure façon de traverser les endroits où vous pouvez vous enliser est de chercher des points d'appui. » Quand on traverse la rivière, et puis non, il faut poser ses pieds sur, là où on voit des rochers qui sont solides. Et il dit que quand il s'agit de problèmes spirituels, vous devez retourner au principe éternel et absolu. Mais pour retourner au principe éternel et absolu, il faut les connaître. Et il faut les méditer, il faut les apprendre en temps de paix et de calme. C'est pendant la paix qu'on prépare la guerre, on dit souvent, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pendant le calme que Dieu nous permet de connaître qu'il nous faut asseoir les vérités qui concernent Dieu. Parce que à ce moment-là, elles pourront revenir. Lamentation 3:19 dit « Quand je pense à ma misère et à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Elle dit « Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Je veux me souvenir. Ce qui me donnera de l'espérance. » Il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Il dit « Ce qui me donne de l'espérance, c'est pas de comprendre pourquoi. » Il y a toutes ces choses. Ce qui me donne de l'espérance, c'est de savoir que Dieu est bon et que ses bontés ne sont pas épuisées et que chaque matin, elles se renouvellent. Voilà ce qu'il faut considérer. Donc, ce qui apportera la plus grande paix, ce n'est pas vraiment la réponse au pourquoi, mais c'est la confiance dans la vérité, des vérités concernant Dieu. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, c'est que nous avons plus que n'avait Job ou Habacuc. Quand il pose ce genre de questions à Dieu, nous avons l'entière révélation de Dieu. Nous avons la parole de Dieu complète. Et donc, si nous voulons questionner la bonté de Dieu ou son amour dans l'immensité des problèmes que nous pouvons traverser, il nous faut regarder à la croix. Il nous faut regarder à la croix, car elle témoigne de l'amour de Dieu pour nous. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, quand il dit « Lui qui n'a point, il parle de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Il est en train de dire que si vous doutez de l'amour de Dieu, vous regardez à celui qu'il a livré à la croix du Calvaire. Si vous doutez de la bonté de Dieu, vous regardez à celui qui l'a livré à la croix du calvaire. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique, on avait développé ça il y a quelques semaines, eh bien, comment ne nous donnera-t-il pas? C'est impossible qu'il ne nous donne pas. C'est impossible qu'il ne soit pas bon. C'est impossible qu'il ne manifeste pas l'amour envers nous. Habacuc n'avait pas tout cela. Job n'avait pas tout cela, puisque tout n'était pas encore écrit. Mais nous, nous avons beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus. Donc nous avons encore beaucoup plus pour pouvoir mettre notre confiance véritablement en Jésus-Christ. Et le verset clé de ce livre, c'est le verset chapitre 1 et au verset 5, chapitre 2, je pense, au verset 5. Non. Habacuc. C'est pas bien noté la référence là. C'est pas 1-5, mais c'est. Il est dû le juste 2-4, c'est 4, pas 5. Il dit, voici, il parle, son âme s'enfle, elle est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Autrement dit, par sa confiance. Pas simplement la foi qui consiste de croire que Dieu existe, mais la confiance que l'on peut placer en Jésus-Christ. Il dit cela à Habacuc. Et pour regarder rapidement la fin de ce livre, ce qu'Habacuc dit quand il saisit ces choses. Verset 17, il dit, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même s'il ne comprend pas, même si tout est sens dessus dessous, même si c'est la guerre, même si c'est l'épidémie, même si c'est la mort, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Voilà comment il termine son livre. Que le Seigneur nous aide. Les problèmes, il y en aura toujours, n'est-ce pas? Ils ne disparaîtront pas. Ce qui est important, c'est quelle attitude nous avons dans les situations. Quelle attitude nous avons dans les situations? Est-ce que, comme le monde, nous blâmons Dieu ou nous rejetons Dieu? Ou est-ce que, au contraire, nous savons, comme Habacuc, même si on ne comprend pas, placer notre confiance dans ce que nous connaissons de Dieu? Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Je ne me repose pas sur ce que je comprends des situations. Je ne me repose pas parce que je comprends comment tu agis. Je me repose sur ce que tu déclares. Tu es, sur ce que je sais de toi. Alors, c'est important pour nous, et c'est la grande leçon, de savoir les vérités fondamentales sur Dieu, parce que c'est sur elles seules que nous pouvons poser nos pieds quand les situations viennent à vaciller. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, qui est la vérité. Et nous reconnaissons que, comme Habacuc, nous pouvons poser parfois beaucoup de questions, demander pourquoi les choses sont d'une manière et pas d'une autre. Nous pouvons avoir ce sentiment que les mauvaises situations perdurent et que tu n'interviens pas. Nous pouvons avoir l'impression que les hommes font ce qu'ils veulent sans que toi tu n'interviennes. Mais ta parole nous affirme que tu es un Dieu qui est à l'œuvre, qui contrôle toutes choses d'une manière sage, beaucoup plus sage que nous ne saurions même l'imaginer. Et nous te prions que tu nous donnes une pleine confiance en ta parole, que nous nous attachions à ta parole, qu'elle puisse faire la joie et l'allégresse de notre cœur. Nous te prions aussi que tu nous donnes d'être comme Habacuc, des hommes et des femmes qui prions, qui au lieu de tirer des conclusions hâtives, persévèrent dans la prière auprès de toi. Seigneur, aide-nous à grandir de la sorte pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre culte, ainsi. Et nous allons prendre un temps pour chanter encore un cantique. Je crois que Ebenezer, tu avais prévu un dernier cantique qu'on n'a pas encore chanté. 429. On va l'afficher ici, 429. Cantique 429. Et puis, Jean-Pierre viendra après pour clore par la prière avant